Accent d'Europe, Léa-Lisa Vesterov.
Bonjour, les 30 pays membres de l'OTAN se réunissent aujourd'hui et demain à Madrid pour parler stratégie. Car depuis le début de la guerre en Ukraine, l'organisation de défense militaire et politique a retrouvé sa raison d'être, perçue comme la seule organisation capable de protéger face à une potentielle attaque de la Russie de Vladimir Poutine. Pour preuve, les demandes d'adhésion express de la Finlande et de la Suède, deux pays qui pendant des décennies avaient fait le choix du non-alignement et pour qui faire partie de l'OTAN était encore inimaginable il y a quelques mois. Anne-Françoise Hivert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondante en Europe du Nord. Revirement stratégique radical donc pour la Finlande et la Suède. Est-ce que cette décision de rejoindre l'Alliance transatlantique a la même signification pour les deux voisins nordiques ?
Eh bien non, en fait. Pour des raisons évidentes, géographiques d'abord, la Finlande partage 1340 km de frontière avec la Russie, la Suède n'en a aucune. Historique ensuite, avant son indépendance en 1917, la Finlande a été occupée par l'Empire russe pendant plus d'un siècle. Depuis, elle a dû affronter l'URSS à deux reprises, entre 1939 et 1944. De son côté, la Suède n'a pas connu la guerre depuis, tenez-vous bien, 1814, plus de 200 ans. C'est à cette époque d'ailleurs que le royaume suédois se déclare neutre, objectif éviter les conflits, mais au fil des décennies, la neutralité devient un élément clé de l'identité suédoise. En Finlande, au contraire, elle n'est qu'un outil adopté pendant la guerre froide pour rassurer l'immense voisin à l'est, d'où la rapidité avec laquelle l'opinion publique finlandaise a basculé en faveur de l'OTAN dès les premiers jours de la guerre en Ukraine.
Et ce n'est pas le cas en Suède ?
Pas tout à fait, non. Certes, une majorité en faveur de l'adhésion se dégage dans les sondages, mais elle est bien plus limitée qu'en Finlande. Les réticences y sont beaucoup plus importantes, chez les sociodémocrates, notamment actuellement au gouvernement. Réunis en congrès en novembre, ils avaient réitéré leur opposition à l'OTAN. Mais quand il est devenu évident que la Finlande allait déposer sa candidature courant mars, ils n'ont eu d'autre choix que de revoir leur position, et vite, d'autant que le Parlement avait basculé. La droite était déjà pour, l'extrême droite a fait savoir qu'elle soutiendrait la candidature suédoise si elle avait lieu en même temps que celle de la Finlande. Seuls les Verts et la gauche maintiennent leur opposition. Quant aux sociodémocrates, ils sont divisés. Si la direction du parti soutient l'adhésion, les opposants restent nombreux. Ceci rappelle l'engagement du parti en faveur du désarmement, son opposition aux armes nucléaires. Ils craignent aussi que la Suède perde son indépendance en matière de politique étrangère et se voit imposer un agenda par d'autres pays.
Est-ce que les conditions imposées par le président turc Erdogan pour approuver l'adhésion de ces deux pays nourrissent cette opposition ?
Oui, tout à fait. Ceux qui étaient contre la candidature suédoise remarquent qu'il est en train de se produire exactement ce qu'ils craignaient. Ankara réclame des changements législatifs en Suède, ainsi que l'expulsion de terroristes présumés, la levée des restrictions sur les exportations d'armes. Stockholm va devoir faire des concessions, mais à quel prix ? La situation est d'autant plus complexe pour le gouvernement que 100 000 Kurdes vivent en Suède et 8 députés ont des origines kurdes. Parmi eux, Amine Kakabave, députée indépendante et faiseuse de majorité au Parlement. Elle a d'ailleurs prévenu, si le gouvernement veut son soutien pour le budget, il va falloir qu'il s'engage à défendre les droits des Kurdes. De quoi alimenter encore un peu plus la colère du président Erdogan.
Y a-t-il des risques que la Russie exploite cette situation, Anne-Françoise ?
Pour le moment, c'est difficile à dire. Selon le président finlandais Sauli Niinistö, son homologue turc lui avait garanti son soutien avant de faire volte-face. En Suède comme en Finlande, les experts semble convaincu qu'Erdogan, avec son veto, tente de gagner des points dans son pays avant des élections qui s'annoncent difficiles pour lui. Mais ni Stockholm ni Helsinki ne se font d'illusions. Les tensions avec Ankara ne peuvent que plaire au maître du Kremlin et il serait surprenant que Moscou ne l'exploite pas. Depuis quelques mois déjà, les deux pays se tiennent prêts à faire face à des attaques hybrides, campagnes de désinformation, de déstabilisation, cyberattaques. Exemple, les photos qui circulent sur les réseaux sociaux et montrent le drapeau du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, projeté sur les façades de la mairie de Stockholm, une action qui aurait eu lieu le 15 juin mais n'a toujours pas été confirmée. Pour Ankara, c'est un nouvel exemple de la tolérance de la Suède à l'égard d'un mouvement qu'elle a pourtant classé comme terroriste dès 1984. De son côté, le ministère des Affaires étrangères à Stockholm a dénoncé, je cite, « une campagne de désinformation consciente et malveillante ayant pour objectif clair de prévenir l'adhésion de la Suède à l'OTAN ».
Merci Anne-Françoise Hivert depuis Stockholm. les sujets brûlants de ce sommet figurera donc l'examen des candidatures finlandaises et suédoises à leur entrée dans l'OTAN. Les États-Unis et plusieurs puissances européennes aimeraient afficher une alliance nord-atlantique solidaire et unie face à la Russie. Mais pour qu'un nouvel État intègre l'OTAN, il faut que tous les 30 pays membres soient d'accord. Or, la Turquie a clairement fait part de réticences. Pour Recep Tayyip Erdogan, c'est non, sauf si la Finlande et la Suède accèdent à certaines exigences. Que pensent les Turcs de ce positionnement de leur pays ? Anne Andlauer leur a tendu le micro.
Alors que ses alliés de l'OTAN l'appellent à la solidarité face à l'invasion russe de l'Ukraine, la Turquie accuse justement la Suède et la Finlande de ne pas se montrer solidaires de sa propre lutte contre le terrorisme. Le président Erdogan reproche aux deux pays nordiques de soutenir le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, et son émanation syrienne, les YPG, contre lesquels l'armée turque a mené plusieurs opérations, d'abriter sur leur sol des individus recherchés par la Turquie et d'imposer un embargo sur les ventes d'armes à son pays. Il exige des gestes concrets, des contreparties, faute de quoi la candidature de Helsinki et de Stockholm devra s'éterniser plus d'un an s'il le faut. Tayyip Erdogan est d'autant plus encouragé dans son intransigeance qu'il recueille le soutien d'une large partie de la population. Tolga, un ingénieur de 42 ans, dit n'avoir jamais voté pour l'actuel président, mais il lui donne raison.
On nous demande d'être solidaires, mais la Turquie est restée très seule ces dernières années au sein de l'OTAN. Nous avons affronté de graves menaces à nos frontières sud, notamment avec la Syrie. Non seulement les autres membres de l'OTAN ne nous ont pas soutenus, mais ils ont refusé de nous vendre des armes au moment même où nos soldats mouraient dans des opérations pour lutter contre ces menaces. Je trouve tout à fait normal et juste que la Turquie s'oppose à l'intégration dans l'OTAN de pays qui ne se tiennent pas à ses côtés et ne se montrent pas sensibles à ses préoccupations.
La Suède et la Finlande répètent qu'elles considèrent aussi le PKK comme un groupe terroriste, mais que leur législation ne leur permet pas d'empêcher sa propagande ou d'extrader un individu qui n'a pas été condamné par leurs tribunaux. Tolga refuse d'entendre cet argument, et tant pis si cela nuit à l'image de la Turquie au sein de l'Alliance Atlantique.
Avant d'envoyer des soldats turcs pour défendre ces pays en cas d'attaque, il faudrait d'abord qu'ils respectent nos propres sensibilités en matière de sécurité. Je pense que la Turquie a parfois du mal à expliquer ses positions à ses alliés, mais je pense aussi que nos alliés ne font pas beaucoup d'efforts pour nous comprendre. La Turquie est un pays qui compte. Elle représente la deuxième armée de l'OTAN. Nous sommes l'un des pays qui soutient le plus l'Ukraine face à la Russie en lui envoyant des drones de combat pour se défendre. De plus, grâce à nos bonnes relations avec les deux pays, c'est à Istanbul qu'ont pu se tenir les dernières négociations de paix russo-ukrainienne.
Du fait de sa position d'intermédiaire privilégié entre Kiev et Moscou, la Turquie se sent en effet en position de force sur la scène internationale et Tayyip Erdogan convient en profiter pour imposer ses vues. Le président turc a aussi promis de lancer bientôt une nouvelle offensive contre les forces kurdes en Syrie et annoncé qu'il scruterait les réactions au sein de l'OTAN pour constater quels pays sont solidaires de la Turquie. Député du principal parti d'opposition, le CHP, l'ancien ambassadeur Ünal Çevikoz n'est pas tendre avec la Suède et la Finlande, mais il déplore la méthode du président Erdogan.
Il s'agit de problèmes dans les relations de la Turquie avec ces pays. Donc la Turquie devrait exprimer ses attentes et tenter de trouver une solution dans le cadre de ses relations bilatérales. Dans le même temps, elle devrait saisir l'occasion du sommet de l'OTAN, au cours duquel l'Alliance définira son nouveau concept stratégique, pour faire inscrire dans les documents de l'OTAN ses sensibilités en matière de lutte contre le terrorisme et de définition du terrorisme international. Mais dire « la Suède et la Finlande n'ont qu'à changer leur politique s'ils veulent qu'on les accepte dans l'OTAN », c'est à mon sens une erreur de politique étrangère, une erreur tactique.
Erreur ou pas, Tayyip Erdogan maintient le cap et il est d'autant plus poussé à se montrer inflexible et à faire vibrer la corde nationaliste qu'il affrontera les urnes dans un an, en juin 2023, au cours d'élections présidentielles et législatives qui s'annoncent risquées pour lui. The show has already begun. But never fear.
We're in time for the beginning of our story. And we hope you enjoy. Les escape games, ces jeux de mise en situation pour lesquels il faut résoudre des énigmes pour s'en sortir, ont la cote depuis quelques années. Et si l'idée est avant tout de s'amuser, certains professeurs ont décidé de s'en servir pour des visées pédagogiques. En Suisse, à Genève, un prof d'histoire géo a ainsi conçu un escape game sur la migration ou comment mieux expliquer aux plus jeunes le parcours du combattant que doivent endurer les candidats à l'exil. Le reportage à Genève de Jérémy Lanche.
Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à l'Escape Game des Minigours. Est-ce que vous avez déjà fait un Escape Game ?
Nous sommes au 8e étage du lycée. À Genève, on dit collège Émilie Gour. Drôle d'endroit, à première vue, pour un Escape Game. Entre les salles de classe et la bibliothèque, les 4 joueurs de cette session ont un peu de mal à se glisser dans la peau de leur personnage. 4 migrants arrivés en Libye et qui veulent gagner la Suisse. Mais très vite, Clara, Maya, Andrina et Carlos sont plongés dans l'ambiance. Deux passeurs libyens viennent de rentrer dans la tente de Bédouins où démarre l'aventure. Ils prennent l'argent des joueurs, les menottes, leur enfilent un sac noir sur la tête et les conduisent au sous-sol dans l'abri anti-atomique de l'école, entièrement décoré pour les besoins du jeu. Les passeurs partis, les 4 migrants enlèvent leur cagoule. Ils découvrent alors qu'ils sont dans une geôle, d'où ils vont devoir s'extirper s'ils veulent atteindre l'Europe. Pour cela, il va falloir collaborer pour se détacher, soudoyer un autre détenu pour qu'il les aide et résoudre tout un tas d'énigmes dispatchées dans la prison plus vraie que nature. En moins de 20 minutes, les joueurs réussissent à trouver le code qui leur permet de passer dans la deuxième salle. Sur le sol, un canot pneumatique avec des gilets de sauvetage. Plus loin, une tente du HCR avec des documents que Carlos, ou plutôt Gaël, son avatar migrant, ne sait pas s'il doit les emporter avec lui.
Je ne sais pas qu'est-ce que c'est le permis de séjour F, E, non, et C. Je ne sais pas si c'est cosmétique ou si ça va nous servir à quelque chose.
On laisse les joueurs aux prises avec les énigmes pour rejoindre ceux qu'on appelle les Game Masters, une quinzaine d'élèves qui surveillent tous les faits et gestes de leurs camarades depuis les écrans de la salle de contrôle. Et confirmation, les 4 joueurs sont plutôt dégourdis.
Comment ils se débrouillent pour le moment ?
Assez bien, ils sont sortis assez vite de la première salle. Et là, pour la deuxième salle, ils ont déjà trouvé pas mal d'éléments. Alors, ça va bien.
Donc là, c'est vraiment les coulisses.
David Pilonel est également là. C'est lui qui a eu l'idée de l'Escape Game.
Il y a les Game Master élèves qui suivent le jeu. Là, on a SOS Méditerranée ou Tokiwoki qui les aident. On les observe, on les écoute, puis on essaie de suivre au mieux. Aussi pour donner les meilleurs indices au meilleur moment. Et c'est ça qui est difficile aussi dans un Escape Game. Pour qu'il avance, il faut vraiment trouver les bons mots pour que ce soit aidant, puis pas trop non plus.
Il a fallu 8 mois à ce professeur d'histoire géo pour concevoir le jeu bien plus efficace pour comprendre les enjeux de la migration que bien des présentations PowerPoint.
On peut leur donner plein de cours sur les migrations, leur expliquer plein de choses sur le vécu des gens. On arrive beaucoup plus à les toucher, les intéresser par l'immersion que provoque un escape game. Il y a un potentiel pédagogique énorme dans un escape game parce qu'il y a des décors, parce qu'il y a du son, il y a même des odeurs qu'on a travaillées aussi. Et l'immersion permet un apprentissage par l'émotion, par le ressenti. Et c'est vrai qu'on arrive beaucoup plus à les toucher par l'escape game.
Les 4 joueurs sont sur le point de quitter la deuxième salle. Ils ont réussi à débloquer la sortie de secours qui les amène à l'extérieur de l'école. Mais un dernier obstacle les attend.
Douane Suisse, papier s'il vous plaît, vous avez vos documents.
Tu peux prendre mes papiers s'il te plaît ?
Impossible en effet de rentrer en Suisse sans se confronter aux douaniers et à la procédure d'asile européenne.
Est-ce que vous êtes bien tous passés par l'Italie ? Alors mettez-vous là s'il vous plaît.
Ah non.
Non, non, non.
Ah les gars, c'était une question, c'était une question qu'on devait répondre juste.
Et vous êtes donc menottés. Est-ce que vous avez compris pourquoi ?
Parce qu'on n'a pas le droit de passer par l'Italie.
C'est pas que vous n'avez pas le droit. La procédure Dublin, ça vous dit quelque chose ?
Si t'es enregistré dans un pays qui fait partie de l'espace Schengen, bah tu peux plus faire une demande dans un autre pays.
Exactement. Et donc vous l'avez vu normalement dans votre programme de 3e année, géographie.
Le jeu s'arrête là. Maya et Andrina se disent ravis de l'expérience, autant pour son réalisme que pour ses vertus pédagogiques.
Je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais vraiment qu'on allait aller dans une salle de classe, juste qu'on allait essayer de trouver une clé pour sortir.
Moi, je trouve que c'était très intéressant parce que ça nous montrait un peu la situation de stress qu'on peut avoir quand on est réfugié. Bon, c'est rien comparé à ce qu'ils vivent, mais juste voir toutes les étapes qu'il faut faire pour pouvoir juste avoir sa liberté, c'est intéressant.
D'autres joueurs se frotteront à l'escape game à la rentrée prochaine. Depuis 2 ans, environ 500 élèves du lycée se sont déjà plongés dans la peau de candidats à l'exil. They just cross right over a picket line. Pay no attention to a picket sign. They're called scabs.
La Grande-Bretagne fait face à un mouvement social inédit. La semaine dernière, les transports ferroviaires ont été perturbés pendant 3 jours. D'autres secteurs pensent à débrayer aussi, le tout dans un contexte de forte inflation et de demande de meilleures conditions de travail face à la montée du coût de la vie. C'est dans ce contexte que le gouvernement britannique songe à modifier la loi du travail pour permettre aux intérimaires de remplacer ceux qui font grève. Marie Billon, vous êtes notre correspondante en Angleterre, bonjour.
Bonjour Léa Lisa.
En français, on appelle un briseur de grève un jaune, mais le mot n'est pas très employé. Au Royaume-Uni, il existe également un mot, il est bien plus connu.
Oui, c'est scab. C'est à la fois un nom et un verbe. Un briseur de grève est l'action de briser une grève en allant au travail. Et selon le dictionnaire d'Oxford, ça vient de scabby, qui signifie la gale. C'est une insulte et un mot qui appartient au slang, l'argot. Jonathan Green est lexicologue. Il compile des dictionnaires de l'argot depuis près de 40 ans. Slang often
takes... L'argot prend des images pour les appliquer à des gens et à des circonstances. Si le dictionnaire d'Oxford a raison et que le mot provient de cette horrible maladie qui crée des pustules sur la peau, le mot est sale dans tous les sens du terme. C'est un mot très agressif qui signifie qu'un briseur de grève est une maladie, donc inhumain ou sous-humain.
Jonathan Green a trouvé des traces de l'usage de scab dès 1551, mais ça désignait alors l'équivalent d'un policier. La première preuve écrite de l'utilisation de scab en tant que briseur de grève date, selon ses recherches, de 1777.
C'était dans un journal qui n'existe plus depuis longtemps de Liverpool, la ville portuaire de l'est de l'Angleterre. C'était à l'occasion d'une grève des cordonniers et on lit « Le conflit n'aurait pas été aussi dur s'il n'y avait pas eu autant de sales scabs ». Comme je le constate souvent avec l'argot, le mot est déjà là quand il arrive dans le journal. Il n'y a pas de guillemets. Rien n'indique que certains pourraient ne pas le comprendre en le lisant. Donc je dis 1777, mais il est possible que le mot soit déjà en usage en 1750, par exemple. It wasn't around in
1750. C'est donc un mot qui a résisté au temps, Marie.
Oui, et en réalité, le mot connaît un regain de popularité dans les années 70 et 80 lors des grands mouvements de grève. Scab est alors l'insulte que les grévistes lançaient à ceux qui franchissaient les piquets de grève, mais pas seulement, il était parfois aussi gravé sur leur voiture, peint sur leur maison, rappelle Martin Farr, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Newcastle.
Dans ce pays au XXe siècle, avec la croissance des syndicats et le développement de la société de classe, il y avait ce sentiment de solidarité, d'appartenance à un collectif. Donc les scabs n'offensaient pas seulement des travailleurs, mais toute leur communauté. Dans cette culture, briser une grève, c'est la pire chose qu'une personne puisse faire.
Martin Farr raconte aussi que les enfants de briseurs de grève étaient traités de scabs, eux-mêmes, ou bien de filles ou filles de scabs. Une véritable chasse aux sorcières qui fait que, dans certains endroits, même 40 ans après les grandes grèves des années 70-80, on sait encore aujourd'hui qui était un scab.
Alors si on parle de ce mot aujourd'hui, c'est parce que finalement le gouvernement veut légaliser les scabs.
Oui, dans le contexte des mouvements de grèves actuels, le gouvernement veut en effet changer la loi. Dans les grandes lignes, il est actuellement illégal d'employer un intérimaire pour faire le travail d'un gréviste. Le gouvernement veut que ça soit légal pour limiter les perturbations imposées au public, dit-il. En gros, il veut légaliser le scabbing, mais le professeur d'histoire Martin Farr n'y croit pas.
Je ne suis pas sûr que le gouvernement aille jusqu'au bout, mais c'est un bon message populiste de la part d'un gouvernement populiste. Il dit qu'il donne la priorité aux passagers, aux consommateurs, tout en présentant les syndicats comme les acolytes du Parti travailliste qui veulent ramener la Grande-Bretagne en 1970.
C'est-à-dire avant Margaret Thatcher, quand les syndicats étaient plus puissants et pouvaient presque complètement bloquer le pays. Mais Martin Farr doute aussi que le projet actuel du gouvernement soit véritablement réalisable, car les grévistes sont souvent des travailleurs qualifiés, durs à remplacer au pied levé, et le Royaume-Uni fait actuellement face à une pénurie de main-d'œuvre qualifiée, sans pouvoir compter sur les travailleurs européens pour combler le manque, notamment à cause du Brexit, tel que l'a voulu le gouvernement actuel.
Merci Marie Billon, à bientôt. Accent d'Europe, Françoise Grelot à la réalisation. Retrouvez-nous à tout moment en podcast sur RFI.fr et sur les plateformes d'écoute. À demain.